La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
L'ambassade d'Euromaritain à Rome, les années 45 à 48, décisives pour sa pensée politique. Décisive pourquoi ? Parce qu'il est au contact du pape Paul VI, du futur pape Paul VI, parce qu'il est au contact de l'Europe après une courte expérience américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je laissais la dernière émission de la semaine dernière sur la notion de mythe. Le mythe est quelque chose d'illusoire. Et Maritain va lutter contre cette notion de mythe à propos de la démocratie. Elles doivent se débarrasser du mythe, en particulier dans le champ international. Dans le champ interne, les États démocratiques trouvent un contrepoids efficace dans la Constitution, les droits humains, les libertés civiles et politiques. Mais dans le champ international, en rapport avec la domination suprême dans la compétition avec les autres États, rien ne peut arrêter les États sinon un État plus fort, écrit Vittorio Possenti. Il cite alors Maritain. Il n'y a pas de contrôle plus puissant, ni d'opinion internationale organisée à qui ces États puissent être soumis. Et quant à la loi supérieure de la justice, ils estiment qu'elle est incarnée dans leurs suprêmes intérêts. Je ne sous-estime en rien le travail que les institutions internationales comme l'ancienne Société des Nations ou l'actuelle Organisation des Nations Unies ont accompli ou accomplissent pour remédier à cette situation. Mais ce travail ne peut pas atteindre la racine du mal et demeure inévitablement précaire et subsidiaire du fait que de telles institutions sont organismes créés et mis en action par les États souverains, dont ils ne peuvent qu'enregistrer les décisions. L'enjeu pour Maritain est de trouver une souveraineté qui ne soit pas celle de l'État. Et Vittorio Possenti, dans cette colloque pour la pensée la mondialisation avec Jacques Maritain, Enjeux et défis de 2007, conclut « Pour Maritain, les deux principaux obstacles à l'établissement d'une paix durable sont la prétention des États à posséder une souveraineté absolue et déliée de toute responsabilité et l'impact négatif de l'interdépendance économique dans l'actuelle phase dans laquelle aucune organisation politique mondiale, donc les Nations Unies n'en sont pas une, ne correspond à l'unification matérielle du monde. L'interdépendance entre les nations s'est certainement énormément accrue, mais ce facteur est plus cause de conflit que de pacification, puisqu'il résulte d'un processus technique et économique et non politique. Le fait que les États actuels ont perdu toute souveraineté et autosuffisance économique devient évident, et c'est pourquoi il faut compter sur la coopération planétaire pour se préoccuper d'un ordre économique mondial différent. En son absence, la simple interdépendance économique peut facilement devenir plus facteur de conflit et de guerre que garantie de paix, capable d'exaspérer les besoins antagonistes et l'orgueil des nations. Dans la justice politique, Maritain inclut la justice économique et sociale, qui n'est pas suffisamment élaborée dans le projet de Kant à propos de la paix, et peut-être aussi chez des néo-kantiens comme Kelsen, polarisés presque uniquement par le droit. Qu'en est-il de Maritain ? Eh bien, voyons un peu ce qui se passe dans sa conception de la globalisation. Écoutons des témoignages d'anciens élèves lorsqu'il était professeur à Princeton.
Nous parlions de plusieurs sujets, de ce que nous avons fait dans le cours, ou des choses qui passent dans le monde. Et c'est la première fois que j'ai entendu ce qu'il disait, le Coca-colonisation du monde.
Coca-colonisation du monde, qui se mue en McDonaldisation du monde aujourd'hui, et qui fait que Maritain, remplaçant Léon Blum à la conférence de Mexico en 1947, Blum était malade, Maritain le remplace, et pour réfléchir sur un accord des nations pour la paix, Maritain va proposer le plan pratique. Un accord pratique, puisque il est impossible de s'entendre sur un accord intellectuel, une synthèse philosophique ou au plan spéculatif. Et son discours sera remarqué et applaudi. Voilà ce qu'il en écrit. Il serait tout à fait vain de chercher une commune justification rationnelle de ses conclusions pratiques et de ses droits. Si l'on s'engageait dans cette voie, on risquerait soit de vouloir imposer un dogmatisme arbitraire, soit de se trouver immédiatement arrêté par des divisions irrémédiables. S'il semble souverainement désirable de formuler une déclaration universelle des droits de l'homme, qui serait comme la préface d'une charte morale du monde civilisé, il paraît clair qu'en ce qui concerne une telle déclaration, un accord pratique est possible, un accord théorique est impossible entre les esprits. Maritain, écrit Joseph Yacoub dans « Penser la mondialisation avec Jacques Maritain », cherche des perspectives pratiques, évacuant le domaine litigieux qui est celui des fondements et de la signification philosophique des droits de l'homme. Maritain écrit « Dans le domaine des assertions pratiques, au contraire, un accord sur une déclaration commune est possible, moyennant une approche plus pragmatique que théorique et un travail collectif de confrontation, de refonte et de mise au point des formules, de manière à rendre celles-ci acceptables aux uns et aux autres comme des points de convergence pratiques, quelles que soient les oppositions entre perspectives théoriques. L'accord des esprits peut s'y faire en effet spontanément, non pas sur une commune pensée spéculative, mais sur une commune pensée pratique, non pas sur l'affirmation d'une même conception du monde, de l'homme et de la connaissance, mais sur l'affirmation d'un même ensemble de convictions concernant l'action. Cela est peu, sans doute, cela est le dernier réduit de l'accord des esprits. Cependant, c'est assez pour entreprendre une grande œuvre, et ce serait beaucoup de prendre conscience de cet ensemble de communes convictions pratiques. C'est une grande dimension de Maritain que cette philosophie pratique et qui va avoir un grand écho dans ce qu'on appelle les démocraties chrétiennes, en particulier dans l'Amérique du Sud.
On peut dire que Maritain a préparé l'Église pour la lutte contre la répression. Et dans beaucoup de pays, l'opposition à la dictature a été menée par l'Église, par la jeunesse, inspirée par Maritain.
On le voit, au mythe de la souveraineté des États va se substituer la souveraineté de la personne, une forme de personnalisme, même si le mot est très éculé, c'est un personnalisme fondé sur les droits de l'homme. Et Maritain poursuit dans son discours de Mexico de 1947. Finalement, on peut inviter tout impérialisme culturel parce qu'on va parvenir à l'élaboration d'une déclaration nouvelle et élargie des droits de l'homme qui marquera une étape notable dans le procès d'unification du monde et où en particulier la conception exclusivement prévalente dans l'individualisme classique des droits et libertés de l'être humain comme appliqués à l'œuvre de son destin personnel et la conception exclusivement prévalente dans les perspectives marxistes des droits et libertés de l'être humain comme engagé dans l'œuvre historique des communautés dont il fait partie arriverait à se compléter et se coordonner, je dis en un sens tout pragmatique, et seulement quant à la promulgation d'un certain nombre de principes d'action et de règles de comportement. Il n'est pas raisonnablement possible d'espérer plus que cette convergence pratique sur une énumération d'articles formulés en commun. Puisons notre source dans l'Antiquité grecque à travers les mélodies grecques de Maurice Ravel.
L'Église, ô Vierge sainte,
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
La Déclaration des droits de l'homme concerne les droits de l'homme de manière très large. Je vais m'arrêter sur deux notions, le droit et le devoir du travail de l'homme, et puis ce qu'on appelle finalement la loi naturelle. Pour les droits de l'être humain dans ses fonctions de travail, Maritain a une pensée déjà élaborée bien avant cette conférence de 1947 et bien avant l'élaboration des droits de l'homme. Il parle en 1942 des droits de la personne sociale et ce qu'il appelle la personne ouvrière. Ce sont les droits de l'être humain dans ses fonctions sociales, économiques et culturelles. Droits des producteurs et des consommateurs, droits des techniciens, droits de ceux qui s'adonnent aux œuvres de l'esprit qu'un nouvel âge de civilisation aura à reconnaître et à définir. Et c'est au sujet des droits de l'être humain comme engagé dans la fonction du travail que se posent les problèmes les plus urgents. On sent derrière toute une conception du travail qui n'est pas du tout une conception alimentaire, mais d'épanouissement de l'homme qui est dans le travail d'une certaine manière co-créateur. Le lien organique entre droit et devoir fait partie de la conception politique de Maritain. S'il est vrai que les droits de l'homme ont leur fondement dans la loi naturelle, laquelle est à la fois source de devoir et de droit, ces deux notions étant du reste corrélatives, il apparaît qu'une déclaration des droits devrait normalement se compléter par une déclaration des obligations et responsabilités de l'homme envers les communautés dont il fait partie, notamment envers la société familiale, la société civile et la communauté internationale. Société civile, droits, devoirs, on arrive sur une vision très importante de Maritain, à savoir le bien commun. Et je laisse la parole à Jean-Dominique Durand qui vient clore ce colloque « Penser la mondialisation avec Maritain » et qui énumère 6 points qui marquent cette pensée. Le premier, c'est l'exigence démocratique, mais pas n'importe quelle démocratie, une démocratie fondée sur une éthique forte et une certaine vision de la personne. Une démocratie qui traduit dans les institutions l'anthropologie chrétienne, qui ne se réduit pas à un fonctionnement plus ou moins efficace, à des règles du jeu, à des procédures, mais qui porte en elle un idéal humain et moral. Deuxièmement, l'attachement aux droits de l'homme fondé sur le message évangélique, mais ce n'est jamais un dogme figé. Troisièmement, la promotion de l'éducation comme moyen premier pour garantir les droits humains. Nous l'avons vu le mois dernier. Quatrièmement, l'appel à l'engagement contre le pessimisme, contre le mal, pour croire en l'avenir et surtout se battre pour refuser ce qui paraît inéluctable, violence, guerre, choc des civilisations et, après la guerre, l'instauration de la paix aux abords de la guerre froide et, juste après, la Deuxième Guerre mondiale. Cinquièmement, l'attention à l'altérité. La globalisation n'est pas uniformisation. En fait, à travers son vécu catholique et sa double expérience romaine et américaine, Maritain évite l'enfermement franco-français de tant d'intellectuels de sa génération et transmet son attention à l'universel avec un message d'ouverture, d'accueil à l'autre, de dialogue. Cette ouverture, cette attention, elle nous permet de dialoguer avec des philosophies actuelles qui poussent l'attention jusqu'à l'attention du végétal, du minéral et de l'animal dans cette préoccupation du réchauffement climatique, de la biodiversité. Et nous pouvons nous appuyer sur les textes de Maritain dans cette attention au contexte. Enfin, la distinction entre le temporel et le spirituel, souligne Jean-Dominique Durand, l'agir en tant que chrétien et l'agir en chrétien, opposant la responsabilité sociale des chrétiens au cléricalisme, la mission temporelle des chrétiens au service de la cité, dans toute sa diversité, fonde la place du laïcat au sein de l'Église, souligne l'impact de l'Évangile et conduit à porter un regard fraternel sur les non-chrétiens, à promouvoir toutes les occasions de rencontre et de dialogue dans le respect mutuel. Ce bien commun, qui est propre finalement à Maritain pour construire sa philosophie politique, non pas sur le mythe des souverainetés d'État, mais sur le peuple, qui est là présent à travers la notion de nation, s'articule sur un vivre ensemble, qu'il va définir dans l'homme et l'État. Et Maritain le définit de manière très profonde. Il ne s'agit pas d'un certain vivre avec, mais bien d'un souffrir avec. Voici ce qu'il écrit. Vivre ensemble ne signifie pas occuper le même lieu dans l'espace. Cela ne signifie pas non plus être soumis aux mêmes conditions physiques ou extérieures, aux mêmes pressions ou au même genre de vie. Vivre ensemble signifie participer comme des hommes, non comme un bétail, c'est-à-dire en vertu d'une libre acceptation fondamentale à certaines souffrances communes et à une certaine tâche commune. Étant donné la condition humaine, le meilleur synonyme de vivre ensemble est souffrir ensemble. Quand les hommes forment une société politique, ils ne veulent pas participer à de communes souffrances par amour les uns des autres. Ils veulent accepter de communes souffrances par amour de la tâche commune et du bien commun. La volonté d'accomplir une tâche commune à l'échelle du monde doit donc être assez forte pour entraîner la volonté de participer à certaines souffrances communes rendues inévitables par cette tâche et par le bien commun d'une société à l'échelle du monde. Quelles souffrances en vérité ? Des souffrances dues à la solidarité.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Nous avons laissé Maritain nous proposer un souffrir ensemble comme définition du vivre ensemble. Et je voudrais terminer cette émission sur la pensée philosophique politique de Maritain avant de nous retrouver la semaine prochaine avec Jean-Christophe Ronet pour un débat contradictoire sur ce même thème. Je voudrais donc terminer par son écrit dans Le philosophe, dans Le paysan de la Garonne, commentant la lettre sur l'indépendance. C'est un recueil, Le paysan de la Garonne, écrit à Toulouse, alors qu'il est ici dans les cabanes en bois des petits frères de Foucault. Et il prend du recul sur son passé pour articuler une pensée présente. Il cite donc la lettre sur l'indépendance à propos de la philosophie chrétienne. Une scène politique chrétienne, j'entends par là chrétiennement inspirée, mais appelant à elle tous les non-chrétiens qui la trouveraient juste et humaine, paraîtrait sans doute aller fort loin à gauche dans l'ordre de certaines solutions techniques, dans l'appréciation du mouvement concret de l'histoire et dans les exigences de transformation du présent régime économique, tout en ayant en réalité des positions absolument originales et en procédant dans l'ordre spirituel et moral de principes très différents des conceptions du monde et de la vie, de la famille et de la cité, en l'honneur dans des divers partis de gauche. Autant, dans l'ordre spirituel qui est suprapolitique, la liberté du chrétien exige de lui qu'il soit tout à tous et qu'il porte partout son témoignage et sa parole et qu'il noue partout ses liens d'amitié vraie, de bonté fraternelle, de vertu naturelle, de fidélité, de dévouement, de douceur, sans lesquels nous ne pouvons pas nous aider réellement les uns les autres et sans lesquels la charité surnaturelle ou ce que nous prenons pour elle risque de geler ou de tourner à un prosélytisme de clan, autant, dans l'ordre politique lui-même, il convient, en l'absence de l'organe approprié d'une politique vitalement chrétienne, de préserver avant tout le germe intérieur d'une telle politique contre tout ce qui risquerait de l'altérer. Plus ce germe est encore fragile et caché et contesté, plus d'intransigeance et de dureté il faudra mettre à le garder pur. Car dès maintenant, et dans les conditions les plus ingrates, et avec la gaucherie des premiers commencements, le départ a été donné. Et quand même, l'invisible flamme de la mission temporelle du chrétien, de cette politique chrétienne que le monde n'a pas encore connue, ne brûlerait que dans quelques cœurs, parce qu'au dehors le bois est trop vert, le témoignage porté ainsi serait du moins maintenu, le dépôt transmis, et parmi l'horreur croissante d'un monde où la justice, la force, la liberté, l'ordre, la révolution, la guerre, la paix, le travail, la pauvreté, tout a été déshonoré, où la politique ne fait sa besogne qu'en corrompant de mensonges l'âme des multitudes et en la rendant complice des crimes de l'histoire, où la dignité de la personne humaine est bafouée sans fin, la revendication de cette dignité et de la justice, le primat politique des valeurs humaines et morales qui sont la partie principale du bien commun terrestre, continuerait d'être affirmé. Un peu d'espoir continuerait de luire pour les hommes en une revanche temporelle de l'amour. Le principe du moindre mal est souvent, et avec raison, invoqué en politique. Il n'y a pas là de plus grand mal que de laisser sans témoignage, je dis dans l'ordre temporel lui-même et par rapport au bien temporel lui-même, la justice et la charité. Ces pages sont citées dans Le Paysan de la Garonne, dans le chapitre « Notre drôle de temps », qui est le deuxième, et Maritain le reprend pour le commenter. On va en lire juste quelques extraits, le temps nous est compté, mais je voudrais inciter votre oreille à écouter tout ce qui renvoie à la valeur absolue de la personne. La personne humaine est une valeur absolument inaliénable et c'est elle qui peut, d'une certaine manière, transcender le mythe de l'État souverain. Maritain s'amuse, tout en montrant que les frontières entre la droite et la gauche sont complexes. Voici, il y a 30 ans que cette lettre sur l'indépendance a été écrite. Depuis lors, la confusion des esprits quand il est question de la droite et de la gauche n'a fait qu'empirer chez nous. L'extrémisme de droite a été envahi par de cruelles frustrations et d'amers ressentiments, dus tantôt à un souvenir nostalgique du vieux maréchal, tantôt aux déceptions de la guerre d'Algérie, sans parler du sentiment malsain qu'on ait des vaincus cherchant quelques revanches. L'extrémisme de gauche a été envahi par une fièvre de surenchère démagogique et un conformisme agressif qui se défend de mal contre le beaucoup d'illusions et l'un petit peu de bassesse dont l'idéalisme grégaire est inévitablement porteur. Et je ne parle pas du sentiment malsain qu'on est des vainqueurs et qu'on le fera bien voir. Tout cela n'est pas très encourageant ni très éclairant, mais le plus grave, c'est que les mots « droite » et gauche n'ont plus seulement un sens politique et social, ils ont pris aussi et surtout, du moins dans le monde chrétien, un sens religieux. De là les pires embrouillages. Et Maritain va désigner deux archétypes. L'archétype de l'extrémisme de gauche, qu'il appelle les moutons de Panurge, et l'archétype de l'extrémisme de droite, je dirais les ruminants de la Sainte Alliance. Cela a beaucoup d'humour, mais c'est assez juste. Et finalement, Maritain propose de sortir de cette dichotomie de droite et de gauche, de sortir d'une politisation du religieux et de garder finalement cette distinction des plans. Alors, en extrême fin à notre émission, avant de donner la parole à Jean-Christophe Gronet la semaine prochaine, je voudrais souligner une grande question posé par Paul Valadier, le jésuite qui était présent dans le colloque « Penser la mondialisation » avec Jean Maritain en 2007, et qui s'interroge sur une démocratie sans valeur morale. Parce que la célèbre guerre des dieux, dit-il, qui est selon Weber irréductible, n'est sans doute qu'un mythe romantique qui voit la réalité des choses et donc illusionne sur des différences, un pluralisme, qui deviennent des abîmes, si on les aggrave, voire si on les absolutise. Il propose des objections pour poser une démocratie sur des valeurs morales. Et ces valeurs morales sont bien héritées de Jacques Maritain. À la semaine prochaine. Au revoir.